Les informations, Sophie Delpont, bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. En Syrie, des affrontements entre forces pro-régime de Damas et rebelles ont fait 15 morts hier malgré le cessez-le-feu à Idlib, négocié entre Moscou et Ankara. Reportage à suivre de notre envoyé spécial à Idlib, Aurélien Colli, qui a pu se rendre sur place.
Dans ce journal, nous irons aussi en Grèce. Des heurts ont à nouveau éclaté entre policiers grecs et migrants à la frontière avec la Turquie.
Au Chili, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues, dans la capitale Santiago, pour réclamer plus de justice sociale. Reportage à suivre.
L'épidémie de coronavirus a fait 2 morts supplémentaires en France hier.
613 cas recensés désormais en France. C'est 190 de plus en 2 jours. Hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé de nouvelles mesures renforcées. On y reviendra avec Tara Schlegel.
Et puis la maison d'édition Hachette refuse de publier les mémoires de Woody Allen.
Explication de notre correspondant à New York, Loïc Loury. Nous irons aussi à Berlin où une révolution technologique est en marche autour des étonnantes propriétés du champignon, on le verra. Et puis poursuivre avec l'actualité avec vous, Karine Brouet, votre invitée.
Philippe Askanazi est avec nous, c'est un économiste du travail, chercheur au CNRS. Nous allons parler de l'ubérisation ou de la désubérisation du monde, on va apprendre à le dire, enfin du monde, de la société française déjà dans un premier temps. Et puis nous parlons bien entendu de la recherche également.
En Syrie, Bachar el-Assad s'est dit satisfait de l'accord de trêve turco-russe sur Idlib, alors que pourtant hier, de nouveaux affrontements ont fait 15 morts entre les régimes pro-régime de Damas, les forces régime de Damas et les rebelles syriens. Washington s'oppose à une déclaration de l'ONU soutenant l'accord turco-russe pour cesser les affrontements dans la région. À Idlib, Aurélien Colli, notre envoyé spécial, a pu se rendre sur place.
Entrer dans Idlib, c'est jouer d'abord le jeu d'une administration civile dominée par les islamistes. Remettre son passeport en échange d'une protection ou au moins de quelques garanties de sécurité. Entrer dans Idlib, c'est trouver une ONG locale qui va servir de guide dans cet espace géographique démembré et cette société en lambeaux pour se faire ouvrir les portes des hôpitaux où les blessés s'entassent, combattants ou civils victimes de bombardements, pris en charge par des médecins qui ne sont pas assez nombreux et par au plus urgent alors qu'il manque de tout. S'enfoncer dans Idlib, c'est avaler des kilomètres d'une route anarchique où se frôlent des vieux camions, des minivans, des troupeaux, des tracteurs ou encore des motos transportant des familles entières. C'est longer des champs d'oliviers ou des terrains récemment inondés où des milliers de Syriens se sont pourtant réfugiés, entassés sous des tentes, des bâches où l'humidité, le froid, le manque de nourriture sont la norme. C'est croiser des enfants pieds nus en guenilles, le visage et les mains sales mais quand même souriants. Arriver à Idlib, c'est découvrir des mosquées ou les coursives d'un stade transformées en dortoirs. C'est écouter les récits d'une population d'exilés, exténuée par la guerre et la précarité.
Aurélien Colli, notre envoyé spécial à Idlib. Alors que de nombreux Syriens tentent de fuir les combats et une situation humanitaire catastrophique sur place, l'Union européenne continue de fustiger la décision de la Turquie de ne plus retenir les réfugiés sur son territoire. Une position jugée inacceptable par les ministres des Affaires européennes de l'UE réunis hier à Zagreb. L'Union européenne rejettera toute pression politique de ce genre, ont réaffirmé ses représentants. Alors que la Grèce est en première ligne face à l'afflux de migrants, de nouveaux heurts ont éclaté hier soir entre des policiers grecs et des migrants à la frontière turque. Gaz lacrymogène d'un côté, jet de pierre de l'autre. La situation reste tendue à la frontière turque au nord-est de la Grèce. Reportage à Castagnès de notre envoyée spéciale Angélique Kourounis.
Depuis le début de la crise, les médias grecs ont bouleversé leur programme et multiplient les émissions. La bataille des chiffres fait rage. Côté turc, les migrants seraient plus de 380 000 à avoir franchi la frontière. Côté grec, 10 fois moins et 36 649 auraient tenté de passer la frontière depuis le début de la crise. Ils auraient tous été repoussés, soit plus de 6 000 par jour, c'est peu probable, d'autant qu'il n'y aurait eu que 252 arrestations selon Athènes. Le président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Francesco Rocca, a également de son côté donner d'autres chiffres, mais il a surtout piqué un véritable coup de sang contre l'Union européenne.
Ce que j'ai vu, c'était quelques centaines de personnes, pas plus. Derrière la clôture, j'ai vu des femmes, des enfants, et c'est ce qui m'a touché par rapport au terme bouclier. Il n'y a pas besoin de bouclier pour se protéger de femmes ou d'enfants. Si l'on use de symboles, il faut que ces symboles soient appropriés. Ce sont là des symboles qui peuvent alimenter des réactions xénophobes. C'est pourquoi je suis si déçu que le président de la Commission européenne ait utilisé ce mot.
La propagande bat son plein. Ankara accuse Athènes d'avoir tué 3 migrants et blessé 3 autres. Athènes nie, mais le fait est qu'il y a au moins un mort et un blessé confirmé. Il est impossible cependant avec certitude de dire qui a tiré. Athènes veut passer pour celle qui protège les frontières européennes, la Turquie pour la victime d'une Europe égoïste. Au milieu de cette instrumentalisation, les réfugiés coincés depuis une semaine, jour pour jour, entre deux barrages de gaz lacrymogène, sans aucun avenir devant eux.
Reportage signé Angélique Kourounis pour France Culture.
Un regain de mobilisation au Chili pour réclamer plus de justice sociale.
Oui, plusieurs milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues hier à Santiago contre le président conservateur Sebastián Piñera. Les rassemblements reprennent de l'ampleur 4 mois après le début de la contestation. Les protestataires se sont réunis dès la fin d'après-midi hier sur la Plaza Italia dans le centre de la capitale, devenu épicentre du mouvement de contestation. Reportage à suivre dans le journal de 9h sur France Culture. En Afghanistan, un attentat revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 29 morts et une 60aine de blessés hier à Kaboul. Il s'agit du premier attentat dans le pays depuis l'accord entre les États-Unis et les talibans. L'attaque a eu lieu lors d'un rassemblement politique.
France Culture 8h06, suite du journal. En France, face à l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre annonce la fermeture des crèches et des établissements scolaires de l'Oise et du Haut-Rhin.
Oui, une fermeture pour 15 jours pour tenter de ralentir la propagation de l'épidémie, alors que la maladie a fait 9 morts en France et qu'on recense désormais 613 cas, dont 39 cas graves. Hier soir, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, a annoncé des mesures de stade de renforcer pour les foyers de l'épidémie, les fameux clusters. Mais il n'est pas encore question de déclencher le stade 3 tout de suite, Tara Schlegel.
Premier ministre, ministre de la Santé, directeur général de la Santé se sont succédés tous les trois pour dédramatiser la situation, mais aussi annoncer une mobilisation plus forte du système de soins. Effectivement, pas de passage en stade 3, mais dans l'Oise où l'on compte 110 malades et le Haut-Rhin au moins 136, les enfants n'iront plus en classe dès lundi, de la maternelle au lycée, car sans être malades, ils sont porteurs du virus et n'arrivent pas à adapter les comportements barrières que préconisent les autorités de santé. Dans ces mêmes clusters, les agences régionales de santé vont pouvoir désormais lever l'obligation de dépistage systématique, obligation qui alourdit trop le travail du SAMU et des personnels soignants. Si un malade désormais n'a pas de symptômes graves, sa prise en charge pourra se faire à domicile. Le ministre de la Santé a évoqué un éventuel recours à la télémédecine. Il verra dès lundi les syndicats des praticiens libéraux notamment, car les généralistes sont appelés à gérer désormais les patients les moins atteints. Et puis côté sanitaire, les pharmacies vont avoir le droit de produire du gel hydroalcoolique. Jusqu'à 2 millions de flacons par jour seraient disponibles, disent les officines. Enfin, le Premier ministre a voulu quand même rappeler que le stade 3 était à la fois inexorable, mais en même temps simplement, a-t-il dit, un stade où le virus circule activement partout. Notre système de santé est prêt à y faire face. 157 hôpitaux sont maintenant en première ligne pour accueillir les malades les plus graves.
Tara Schlegel. On atteint désormais 100 000 personnes infectées par le nouveau coronavirus dans le monde, dont 55 000 personnes sont guéries, a précisé hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. L'épidémie a fait 3 406 morts, selon les données transmises par les autorités. La Chine concentre à ce jour 80% des malades et 90% des décès liés au virus. Alors qu'on a décelé 21 cas positifs sur le bateau de croisière au large des États-Unis, au large de Pence, une information transmise cette nuit. Face au coronavirus, beaucoup d'interrogations au niveau économique, notamment sur les cours du pétrole qui s'effondrent. Alors l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a tenté hier de se mettre d'accord, trouver une réduction globale et commune de la production de pétrole à 1,5 million de barils de moins par jour. Sauf que les négociations n'ont pas abouti hier avec la Russie, un des partenaires de l'OPEP. Les bourses ont chuté. Hier soir, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 4%. Pour répondre à une question sur l'ordre économique du coronavirus, notre invité des matins du samedi est Philippe Askinazi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Alors, cette épidémie mondiale de coronavirus peut-elle remettre en question les équilibres économiques ?
Alors, je ne pense pas, tout du moins pas sur le long terme. La Chine, l'Asie du Sud-Est est dans une dynamique de croissance depuis plusieurs décennies qui se poursuivra après cette crise du coronavirus. Donc, c'est plutôt des effets de moyen terme que l'on va connaître, essentiellement qui vont toucher le tourisme, là probablement pendant plusieurs trimestres, et pendant 2-3 trimestres, l'activité en général. Mais peut-être le point pourquoi les bourses baissent tant. Dans le son que vous passiez, on disait que le système de santé est prêt. Je pense que du côté justement des investisseurs, de beaucoup d'acteurs économiques, il y a une très grande inquiétude sur la fragilité des systèmes de santé, même dans les pays les plus avancés. Et cette forte incertitude pèse sur les acteurs et les décideurs.
Merci Philippe Ashkenazi, vous êtes donc professeur d'économie. On annonce aussi au chapitre économie, toujours en rapport avec le coronavirus, que Facebook a décidé de fermer ses bureaux à Londres et qu'une partie de ses locaux à Singapour aussi sont fermés désormais pour mettre en place des mesures contre le coronavirus après la détection de plusieurs cas dans l'entreprise. Vous restez avec nous bien sûr Philippe Ashkenazi pour les matins du samedi avec Caroline Brouet. Nous partons maintenant à New York, où, assailli de critiques, le groupe Hachette a annoncé hier qu'il renonçait à publier les mémoires du célèbre cinéaste new-yorkais Woody Allen, qui devait sortir ses mémoires début avril aux États-Unis. Une polémique avait éclaté, Louis Glory.
À tous les employés qui ont pris position, je suis sidérée et tellement reconnaissante. Les mots sont ceux de Dylan Farrow, postés sur Twitter, après l'annulation par Hachette de la publication d'Apropos of Nothing, le titre des mémoires de Woody Allen. La veille, en effet, plusieurs dizaines de salariés de la maison d'édition étaient sortis de leur bureau à New York pour protester contre cette parution. Le groupe dit les avoir entendus et assure que les droits seraient rendus aux réalisateurs. Le manque à gagner pourtant est évident. L'ouvrage, hier soir, était encore étiqueté best-seller, disponible en précommande sur Amazon. Mais Hachette a cédé face à la pression, celle notamment exercée par Ronan Farrow, le frère de Dylan, prix Pulitzer 2018, pour son enquête sur Harvey Weinstein, l'un des déclencheurs du mouvement MeToo. Woody Allen aujourd'hui est donc rattrapé par la vague. Il y a 2 ans, c'est Amazon qui avait annulé la sortie de l'un de ses films, Un jour de pluie à New York, sur sa plateforme de streaming.
Loïc Loury, le correspondant de France Culture à New York. La révolution du champignon est en marche. On connaissait les propriétés de ces êtres vivants dans le fromage ou la fermentation de la bière. Eh bien, la science leur découvre en ce moment des propriétés insoupçonnées, des applications inattendues. D'ici 5 à 10 ans, des maisons de vêtements ou des meubles pourraient être fabriqués à partir de champignons, un matériau inépuisable et par définition écologique. Reportage à Berlin de David Philippot.
Visite dans l'incubateur du département de biochimie, une pièce chauffée à 26 degrés avec 70% d'humidité.
Condition idéale pour les champignons.
L'étudiant Kushtrim Serini prend un sac plastique sur une étagère.
À l'intérieur, les champignons se nourrissent des copeaux de peuplier. C'est tout mou, mais dans 2 semaines, les fibres mélangées vont devenir dures et nous donner un produit.
Un matériau de base, une fois passé à 70 degrés au four dans un moule qui est transformable à volonté en casque à vélo ou en brique. Le professeur Vera Mayer dirige le projet de recherche.
Ce matériel est idéal pour remplacer le placoplâtre. Il résiste mieux aux incendies, aux tremblements de terre. Il isole du bruit et garde la chaleur et il est plus écologique.
Écologique selon le chercheur Bertram Schmidt, car ce matériau de base est fabriqué à partir d'amadouvier, l'un des champignons les plus répandus qui se fixe sur les arbres malades, sur les hêtres ou les bouleaux. On le trouve toute l'année et c'est pour lui l'un des plus intéressants. Plus écologique également si on le transforme en vêtements.
Pour 1 kilo de textile en champignon, on a besoin de 100 litres d'eau contre 10 000 ou 20 000 litres d'eau pour 1 kilo de coton.
Le laboratoire de Berlin travaille sur 60 espèces de champignons. Il en existe 6 millions dans le monde. La NASA s'intéresse également de près à ce matériau miracle, car les futures bases habitées sur la Lune ou sur Mars doivent être solides tout en étant facilement transportables.
David Philippot à Berlin pour France Culture. C'est une première à Marseille. 4 braconniers viennent d'être condamnés à 385 000 euros d'amende pour préjudice environnemental. Reconnus coupables d'avoir pêché des espèces protégées dans le parc national des Calanques, notamment des mérous ou encore des poulpes, ils avaient déjà été condamnés au pénal en 2018 à 15 et 18 mois de prison avec sursis. La météo, 4 départements sont en vigilance orange aux inondations. Sont concernés l'Eure-et-Loire, le Tarn-et-Garonne, les Deux-Sèvres et le Calvados. Un temps sec devrait dominer presque partout ailleurs aujourd'hui. Un grand soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises entre 3 et 13 degrés ce matin. 3 degrés à Strasbourg, 7 degrés ce sera pour Paris et Bordeaux. 13 degrés maximum pour Ajaccio.